Vous écoutez France Culture.
Semaine un peu particulière de la Fabrique de l'Histoire, puisqu'hier nous vous avons proposé une émission hors thème que vous pouvez d'ailleurs réécouter comme toutes nos émissions pendant 500 jours et télécharger pendant une semaine un entretien avec l'historien et écrivain Umberto Eco sur la paranoïa du complot et les faux dans l'histoire. Et donc nous débutons ce matin une semaine thématique de 3 jours sur le travestissement dans l'histoire. Demain nous traiterons des travestissements dans le monde antique avec Violaine Sébillotte-Cuchet et Florence Dupont. Jeudi nous aborderons le travestissement de femmes en hommes et ce matin nous vous proposons un documentaire d'Anaïs Quin et de Charlotte Roux sur une histoire incroyable qui se passe au début du XXe siècle, donc une histoire de la Première Guerre mondiale et des années folles qui a elle-même été découverte dans les archives par une historienne, Danielle Volman, et un historien, Fabrice Virgili. Ils avaient déjà travaillé ensemble pour une grande exposition consacrée à l'amour, à la guerre et à la sexualité. Amour, guerre et sexualité, c'est exactement ce dont il est question dans leur livre La garçonne et l'assassin qui vient tout juste de paraître. Et nous allons le aider également dans le documentaire La Fabrique de l'Histoire de ce matin jusqu'à 10h avec des textes lus par Cécile Baquès et Christophe Brault.
Nous n'irons plus au bois. La drôle d'histoire de Paul, Louise et Suzy.
Au dispensaire, il fut constaté que l'enfant avait 38,8 de fièvre. Nous sommes sortis, mais une fois dans la rue, mon mari a dit qu'il avait soif et il a voulu entrer chez un marchand de vin. Je l'ai supplié de ne rien faire, mais il a refusé. Je lui fis observer que l'enfant était malade. Il me répondit textuellement « Ne me fais pas chier ». Je suis alors partie avec mon enfant pour lui donner les soins nécessaires à la maison. Mon mari est revenu vers 7h30 et m'a demandé son album, où se trouvaient ses photographies le représentant en femme. Et il est ressorti immédiatement. Puis mon mari est rentré. Il était en état complet d'ivresse. En pénétrant dans la pièce, il est tombé à la renverse sur le lit. Il s'endormit, mais sans doute sous l'emprise d'un cauchemar, comme il le faisait du reste depuis quelque temps, il se remit à rugir puis à s'agiter sur son lit portant des coups de pied contre la cloison. S'étant réveillé, il s'assit sur le lit et me lança 2 gifles avec le dos de la main car je m'étais couchée auprès de lui. J'ai essayé vainement de l'apaiser car il était toujours en état d'ivresse et le petit criait toujours « Moi, la peur de papa !» J'ai répondu « N'aie pas peur, il fait joujou avec maman. » Enfin, au moment où penché sur l'enfant pour essayer de le protéger contre les mouvements désordonnés de mon mari, celui-ci me porta un violent coup dans le dos en s'écriant « Ça va pas recommencer, ces 2 vaches-là !» Et comme le petit criait, de plus en plus fort, et comme mon mari devenait de plus en plus agité, j'eus peur et prenant le revolver de mon mari qui était sur la cheminée, j'ai tiré sur lui.
Paul Grappe et Louise Landy se sont aimés dans le Paris ouvrier de la Belle Époque. Semblables à bien d'autres Parisiens, ils étaient issus de familles populaires fraîchement immigrées dans la capitale. Ça commence comme ça, comme le livre de Danielle Volman et Fabrice Virgili, La garçonne et l'assassin. Une histoire sans histoire si la Grande Guerre n'était pas passée par là. L'histoire de Paul et Louise, exhumée des archives judiciaires, c'est un parcours de vie. Un fait divers à succès, un scénario idéal, avec en guise de décor la France des années folles. Pour certains, ces années sont vivantes et flamboyantes. Pour d'autres, la décadence contamine l'ordre social, la famille, la France. Joséphine Baker et Rudolf Valentino prennent la pause. Les garçons sautent en parachute. L'homosexualité et la bonne humeur sont à la mode. Avec leurs cheveux et leurs jupes raccourcies, les femmes sourient aux photographes, tout comme les hommes qui ont abandonné leur barbe à la décennie précédente. Le Paris des années folles, c'est celui de Paul et Louise, l'arrière-plan d'une histoire d'amour qui finit mal.
Comment se rencontrent
Paul et Louise, Fabrice Virgili.
Au cours de mandoline. Voilà, c'est-à-dire qu'on commence, si on commence à raconter chaque anecdote en elle-même est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rêver mieux dans une histoire d'amour, même si elle finit tragiquement, qu'une rencontre au cours de musique. Parce qu'ils sont de milieux extrêmement modestes, l'un comme l'autre. Ils vivent dans le 13e arrondissement, dans le quartier des Gobelins. Alors, il ne faut pas que je m'y perde moi-même dans les prénoms. Louise, donc, Louise, elle a suivi une scolarité et a eu son certificat d'études, ce qui, pour une jeune fille au début du XXe siècle, est déjà un niveau de scolarité tout à fait honorable. Quant à Paul, lui, au contraire, parce qu'il a été ballotté d'une mère à une grand-mère, à des amis de la famille, n'a pas du tout eu de scolarité et se trouve adolescent, pratiquement analphabète. Mais là, il y a un élément déclencheur qui fait qu'il va se mettre à prendre du cours du soir pour apprendre à lire et à écrire, mais aussi pour apprendre la mandoline. Et c'est au cours de musique, dans le quartier des Gobelins, qu'il se rend compte.
Il a fini par comprendre que s'il voulait faire quelque chose de sa vie, il fallait qu'il ait un certain niveau d'études. Donc il a suivi des cours du soir, il a passé son certificat d'études et en même temps, il a fait un apprentissage chez un opticien. Et il a obtenu une qualification qui, d'après ce que je sais, était assez rare dans les métiers de l'optique. Et donc, au moment où il rencontre Louise, il n'a en tout cas pas l'avenir d'un ouvrier non qualifié du Paris populaire. Il est un peu au-dessus. C'est lui qui lui a fait la cour. Et d'après ce qu'on sait de la psychologie de Louise, c'était une personne un peu effacée et qui peut-être manquait d'amour. Peut-être n'était-elle pas très remarquée par les garçons, elle avait 17 ans. Et ce Paul se met à lui faire la cour, elle tombe amoureuse de lui. Et là, elle dit qu'elle était très très amoureuse de lui, donc peut-être pas coup de foudre, mais en tout cas, la relation s'est nouée et ils se sont aimés. Elle voulait se marier avec lui, et donc ils ont commencé à vivre ensemble, et après ils se sont mariés. On arrive en 1911, et pour l'instant c'est l'histoire d'un couple d'amoureux, de tout jeunes gens, pas de problème. Sauf que Paul a 20 ans, et que donc il est obligé d'aller faire son régiment. Sauf que nous étions en 1912, qu'il y avait 2 ans de service militaire, et au moment où il aurait dû finir son service militaire, voilà que la guerre éclate. Et donc, il est obligé de partir au front. Il part tout de suite, dans les premiers jours du mois d'août. Il fait un mois de guerre, il a le baptême du feu, il faut marcher, porter le barda, on a peur, c'est fatigant, c'est dur. Et là, c'est trop pour lui.
Et dès la fin août, c'est-à-dire un mois à peine, moins d'un mois après le début des opérations et de son engagement, il est blessé une première fois à la cuisse. Il est à ce moment-là soigné, en convalescence. Il est renvoyé sur le front en octobre. Et le 4 novembre, il est à nouveau blessé. Cette fois-ci, ce n'est pas à la cuisse, c'est à la main droite et à l'index droit. Est-ce qu'il y a blessure ou est-ce qu'il y a automutilation? Évidemment, l'index droit amène à une grande suspicion d'automutilation. Finalement, des camarades témoignent en sa faveur. Il évite le conseil de guerre et donc il n'est pas poursuivi pour automutilation. Il est envoyé en convalescence. Donc là, on est en novembre. Et il est en convalescence pour un index droit, qui finalement doit être amputé, le mois de novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait beaucoup pour un index, mais ce soupçon sur le fait qu'il est bien mieux en convalescence qu'au front, on n'est pas le seul à l'avoir, et son capitaine l'a également, il veut absolument le renvoyer, il le menace en lui disant « bon, maintenant c'est terminé, grappe, vous retournez au front, et si je vous vois tirer au flanc, je vous réglerai moi-même votre compte ». Et là, Paul Grappe, assez crâneur finalement, dit « mais vous n'aurez pas l'occasion parce que d'ici 48 heures, j'aurai déserté ». Manifestement, tout le monde croit que c'est de la bravache, mais il déserte effectivement. Donc il rejoint sa femme, il se cache. En l'espace d'un mois, il y a au moins 3 à 3 reprises, il risque de se faire prendre. Et l'idée leur vient qu'ils prennent les vêtements de Louise. Ils ont à peu près la même taille, on le voit d'ailleurs sur les photographies. Et qu'il fasse un essai.
Elle lui prête ses vêtements, elle lui donne sa plus jolie robe, elle lui perce une oreille pour qu'il porte des boucles d'oreilles. Et tout le temps où il va rester travesti, car il va rester 10 ans travesti, Elle lui fournit des crèmes, des...
Allant même jusqu'à travailler davantage.
Et elle travaille
pour gagner l'argent qui permet d'acheter tous ces cosmétiques pour entretenir ce physique de femme.
Elle a dû jouer un rôle peut-être plus important que ce qu'on a pensé. Et donc, Paul devient Suzanne.
Sur la masse des hommes mobilisés, finalement, c'est très faible. On est sur des taux qui sont autour de, ça dépend, 1-2%, mais comme la masse est énorme, ça fait quelques dizaines de milliers de personnes qui, effectivement, vont se cacher. Pourquoi est-ce que le cas de Paul va prendre une dimension telle en 1925? C'est parce qu'évidemment, son histoire est particulière. C'est-à-dire des déserteurs qui font le choix d'être en femme, a priori, bon, je n'en ai pas rencontré d'autres. On m'a dit qu'il y avait eu des cas similaires en Allemagne, voilà, mais j'en sais pas plus. Donc, sur des effectifs pareils, on peut toujours imaginer toutes sortes d'inventions hein, pour pouvoir se cacher. Et c'est vrai que ce qui nous intéressait, c'est l'idée de passer de l'autre côté du genre et finalement la meilleure protection. Puisqu'on voit bien pendant la Première Guerre mondiale que les autorités militaires vont tout faire pour récupérer le maximum d'hommes. On va aller chercher les pères de familles nombreuses. On va mobiliser à quasi 95% les classes d'âge les plus jeunes. On va aller mobiliser les hommes d'église. Donc vraiment... On a besoin d'hommes, cette guerre est dévoreuse en hommes, on a besoin d'hommes et on va tout faire pour mobiliser les hommes, il en manque. Par contre, on va, dans le même temps, refuser absolument que les femmes participent à la guerre, même celles qui sont volontaires. On a des exemples, ce n'est pas des centaines de milliers de femmes, on a des exemples quand même de plusieurs groupes de femmes qui réclament la possibilité d'aller combattre, de participer aux opérations. Il y a une ligue des enrôlés, il y a Madeleine Pelletier qui est connue aussi, qui essaye d'atteindre la zone des armées, qui est chaque fois reprise et renvoyée à l'arrière. Donc on a besoin d'hommes, mais on ne veut surtout pas de femmes. Évidemment, en devenant femme, c'est une super protection. On lui fichera la paix, il le sait. En tout cas, il le sent bien. Il le sent bien qu'il n'y a aucun risque qu'on l'envoie au front tant qu'il sera une femme. Ma photo préférée de Paul.
Ouais.
Quelle est ma photo préférée de Paul? Je ne sais pas si c'est... Moi, j'aime bien celle où ils sont tous les... Elles sont toutes les trois devant leur logement rue des Saussures avec la concierge. Donc, en fait, il y a la concierge qui est... C'est pas devant sa loge, parce qu'en fait, il y a un magasin de canage rempaillage.
Devant le pas de porte.
Donc, la concierge sur la gauche, qui est la plus petite. Donc, Paul, qui n'est pas Paul à ce moment-là, mais qui est bien Suzanne, avec un brodo. Donc, ça nous rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas l'eau courante dans ce genre de logement, pour tout, surtout pour un couple très modeste. Donc, on allait chercher l'eau dans la cour. Et puis, à droite, Louise... Et voilà, et ils posent toutes les trois et on comprend. En fait, on ne sait pas pourquoi elle est faite, cette photo, par qui et à quelle occasion. Est-ce que c'est une sorte de mini-reconstitution une fois qu'il est découvert ou est-ce que c'est simplement une photo je ne sais pas.
Une fois que Paul est devenu Suzanne, c'est non seulement un travestissement de clandestinité, mais il semble avoir totalement pris cette nouvelle identité féminine. Il est devenu une femme. Il est devenu une femme, ils vivaient donc ensemble et ils s'affichaient comme un couple de garçons. Alors, tant que la guerre durait, c'est-à-dire de 1915 à 1918, il n'était pas totalement incongru de voir deux femmes vivre ensemble parce que les hommes étaient au front, il y avait moins d'hommes. Donc. Mais après la guerre, et au moment où s'est développée la mode des garçons et où l'homosexualité, pour le coup ici féminine, était peut-être pas totalement acceptée, loin de là, mais en tout cas plus visible, elles se sont affichées comme un couple de garçons. Donc c'est pas seulement, on aurait pu dire, deux amis ou deux veuves esselées qui se mettent ensemble, ça il y en a eu beaucoup après la guerre. Alors que là, elles s'affichaient comme des garçons, ce qui est déjà... pas mal, c'est une affirmation de marginalité. Mais il y a eu un cran supplémentaire, c'est-à-dire que Suzanne, à la fois pour des raisons de prudence parce qu'il était tout de même clandestin, et aussi sans doute parce qu'il était un peu paresseux, en tout cas il ne travaillait pas, ou peu. Il restait peu de temps dans les places, il a fait plusieurs places, on a des certificats de travail, donc on sait qu'il a vraiment travaillé, mais on voit aussi les laps de temps, et c'était assez court. Donc le reste du temps, il faisait rien, il était à la maison, il jouait de la mandoline, son premier instrument qui lui avait permis de rencontrer Louise, et évidemment il s'ennuyait un peu, pendant que Louise s'échinait à travailler pour rapporter l'argent du ménage, et là il s'est mis à aller se promener au bois de Boulogne. Et comment la transformation s'est faite, on ne sait pas, mais toujours est-il qu'il s'est mis finalement à avoir des rencontres dans ce bois de Boulogne. Et ce qui est très très intriguant et intéressant, c'est qu'il a l'air d'avoir vécu une bisexualité complète, c'est-à-dire qu'il a rencontré des femmes, il a rencontré des hommes. D'où savons-nous tout ça? Parce que c'est pas de l'hypothèse. C'est qu'il a écrit un journal. Et pour le coup, c'est pas du tout comme le journal de Louise qu'il a écrit, le sien, pour sa défense. Alors que le journal de Paul qu'on a retrouvé, ce sont des notes qu'il prenait au jour le jour et qui étaient dans ses affaires personnelles. Donc c'était pas destiné à la lecture. Donc là, on peut imaginer que c'est totalement sincère. Mais toujours est-il que dans ce journal, il note ses rendez-vous, et il en avait beaucoup, plusieurs fois par semaine. Il note les personnes avec qui il avait rendez-vous, et là, nous voyons des hommes et des femmes. Il note ce qu'il fait, c'est-à-dire, il dit belle partouze, c'est les mots qu'il emploie, grande jouissance, celle-là est bien, celui-là n'est pas bien. Enfin, il fait des commentaires sur la sexualité qu'il connaît au bois. Et visiblement, ça lui plaît beaucoup.
Allant presque quotidiennement au bois, il y avait appris des vies. Là, j'ai nettement constaté qu'il me trompait en garçonne. Naturellement. Plus les années passaient, plus mon amie Suzanne devenait célèbre au bois. Elle était la reine des garçonnes et avait tous les soirs en sa possession 5 ou 6 femmes. Quelle force de caractère il m'a fallu pour accepter les baisers qu'il me donnait. Par la suite, j'en avais la répulsion. Les bretelles que nous faisions chez nous restaient en souffrance car presque quotidiennement, Suzanne partait le soir à 9h pour aller là. Il me répétait qu'il était partisan de l'amour libre. Vers août 1924, un soir, mon mari me dit « Je t'emmène ce soir au bois ». Moi, j'ai refusé car je savais ce qu'il allait y faire et moi, j'étais pas habituée, ça me faisait peur. À mon refus, il m'a fait une séance, me traitant de bonne à rien, sauf à récurer le cul de mes casseroles. La femme popote, c'était son mot. Lui, il lui fallait des femmes intelligentes, hardies, qui aiment à vivre leur vie, à s'amuser. Il m'a tellement disputé que j'ai dû l'accompagner au bois. Moi, cette impression de voir ces grands arbres la nuit, j'avais réellement peur.
Alors le bois de Boulogne est depuis le 19e siècle au moins déjà un lieu de rencontre. Donc on va se promener, mais aussi de rencontres mondaines et de mondains à coquins, on pourrait passer, donc qui n'est pas forcément identifié comme lieu prostitutionnel, mais un lieu de rencontre, donc on peut rencontrer des personnes à la vertu légère, comme on pouvait dire, plus facilement. Et puis petit à petit, et donc à partir des années 20, dans certains coins, va commencer à se mettre en place une pratique prostitutionnelle également, entre autres l'avenue des Acacias. On a quelques références sur le fait que Paul se retrouve à avenue des Acacias, qui selon l'heure à laquelle vous allez, est soit un lieu de rencontre, soit un lieu prostitutionnel. Voilà, donc il y a déjà la réputation du bois de Boulogne est déjà établie à ce moment-là, en tout cas en train de l'être.
Les femmes d'aujourd'hui, c'est assez décevant. non plus de derrière et non plus de devant. Plus de néné, soit en poire, soit en pomme. Plus de cheveux, plus de mollets, rien en somme. La mode a proscrit son nul ondulé. Son cruel rabot a maintenant tout nivelé. Et l'on se dit, je suis acteur quand je suis dans le dodo. J'ai du goût pour les planches comme les cabots. Les filles, c'est des garçons. De petits hommes, oui, voilà ce qu'elles sont.
En 1924, mon mari était encore femme. Pour ne rien changer à son habitude, s'en va, accompagné d'un ami, Henri, le soir, vers 9h, au bois de Boulogne. Il a fait, paraît-il, une partouze inoubliable. Pour la récompenser, Henri emmène Suzanne à Montmartre. Ils font la connaissance d'une femme qui avait perdu une bague. Tous trois la cherchent, Suzanne la retrouve et lui donne. Et pour les récompenser, cette dame, qui s'appelle Irène, les suit dans un hôtel. Henri paye 50 francs une chambre pour la nuit. Suzanne est à son affaire, elle fait l'amour en garçonne avec elle et Henri en a aussi pour son argent. Toute la nuit passe et je suis inquiète. Je n'ose rien dire à la concierge. J'ai peur que Suzanne se soit faite prendre dans une rafle. J'ouvre ma porte, elle arrive. Le midi, elle me renseigne davantage. Irène est une beauté irrésistible et gagne avec son corps 300 à 400 francs par jour. Elle est en maison close, juste en face le métro ou la chapelle. Suzanne a failli se trahir la nuit qu'ils se sont connus. Elle était si belle. Si belle qu'elle s'est aperçue que Suzanne n'était pas pareille que les autres femmes, malgré son maillot collant. Suzanne la rassure et lui dit qu'elle est androgyne. Irène se contente de la parole et dit que ça ne lui déplaît pas. Suzanne est folle de joie, car Irène lui fait entrevoir qu'elle laisserait peut-être son homme pour elle. Et à son tour, Suzanne me dit qu'elle n'était pas faite pour une femme popote comme moi. Que c'était quitte ou double, hein. Entretenue par Irène si elle est sincère, ou la prison si elle le trahit. Irène devait lui donner 50 francs par jour, plus l'entretien et la nourriture. Elle se donne rendez-vous, mais cette fois-ci sans Henri, pour prendre une ferme résolution et s'aimer toutes deux, en franchise. Irène n'est pas venue au rendez-vous. Elle n'est plus tranquille et comprend qu'elle a peut-être joué avec le feu. Il charge deux pistolets automatiques et me dit que si on vient l'arrêter, il tire dans le tas. Elle n'a pas trahi Irène. Elle fait comprendre à Suzanne qu'elle ne pourrait jamais oublier son homme, qu'elle l'avait dans la peau. Donc, si Suzanne ne m'a pas laissé tomber après 10 ans de lutte et de sacrifice, c'est qu'il n'a pas trouvé l'occasion et c'est aussi la preuve d'un amour sincère qu'il avait pour moi.
Les années 20 en France, c'est ce qu'on appelle les années folles, et Paul Suzanne se réclame régulièrement de l'amour libre, Fabrice Virgili.
Dans les années 20, il ne fait aucun doute que, donc, au sortir de la guerre, on est quand même dans une période où, sans parler de révolution sexuelle, il y a, en tout cas dans les esprits, une libéralisation des mœurs et une plus grande tolérance à des pratiques qui ne sont pas uniquement celles du mariage. Et on le voit à travers plusieurs exemples. Entre autres autour de, d'une part, le roman La Garçonne et la mode de La Garçonne, parce qu'il y a évidemment le roman écrit par Victor Marguerite. Alors c'est étonnant, hein, le roman est publié en 1922. Victor, ça va faire un scandale. Ça va faire un scandale, on retire la Légion d'honneur à Victor Marguerite, mais il y a des gens qui le soutiennent. Je crois que Paul Valéry écrit une lettre au comité de la Légion d'honneur en protestant lui-même. Donc on voit bien que c'est compliqué, hein, mais ça fait du scandale. Mais néanmoins, il y a quand même le roman. Et en plus, ce roman est un grand succès, c'est-à-dire qu'il est réimprimé, publié à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Donc c'est un vrai grand succès de librairie qui décrit justement un parcours de femme qui, après une très grosse déception amoureuse, va assumer une sexualité qu'elle maîtrise et libre, aussi bien homosexuelle qu'hétérosexuelle. Et autour de ce personnage, il y a tout ce qui tourne autour de la mode de la garçonne, donc des cheveux plus courts, qui sont aussi une manière d'affirmer une indépendance, rompre avec les signes extérieurs de la féminité en coupant des cheveux plus courts, en fumant en public, au moins à Paris et dans certains quartiers, le lesbianisme est affiché par un certain nombre de ces femmes qu'ils ont connues, qui le revendiquent. L'homosexualité masculine, sans être affichée de la même manière, en tout cas, existe et moins réprimée en tout cas qu'à d'autres moments, ou moins dénoncée qu'à d'autres moments. Donc on est dans une sorte de période comme ça où les choses peuvent se passer un peu autrement. On respire un peu du point de vue de la moralité, donc des sexualités autres peuvent exister sans être autant dénoncées. Et on le voit à travers leur parcours. Elles vont vivre comme couple de femmes. Elles ne se font pas passer pour deux sœurs, pour, je ne sais pas moi, deux collègues, sans que ça provoque l'expulsion de leur logement. C'est intéressant l'histoire du logement, parce que quand elles habitent dans le quartier des Batignolles, rue de Saussure, donc elles vivent en tant que couple de femmes, et c'est quand lui va redevenir homme que la propriétaire va essayer de les expulser. Donc ce couple de lesbiennes redevenu un couple d'hommes et de femmes va obtenir le soutien de l'Humanité, où il y aura un article, mais aussi de gens du quartier, hein, contre l'expulsion de ce couple. Et on le voit, c'est étonnant finalement, parce que c'est le retour à une sorte de normalité des sexes qui va provoquer la tentative d'expulsion que n'avait pas provoqué la vie en tant que couple de lesbiennes.
En janvier 1925, mon mari est amnistié. C'est la fête, la gloire, les compliments pour la garçonne des Batignolles. Le succès est toujours de plus en plus grand. Mon mari boit de plus en plus et ne pense plus du tout à travailler. Il ne ressemble plus à un homme normal. Il tremble au point qu'il ne peut plus porter à sa bouche son bol de café que je lui donne le matin. Il devient méchant. L'argent commence à manquer, c'est le pire. Et pourtant, il ne veut plus travailler. Il ne veut plus s'habiller en homme. Il va soi-disant à Champigny travailler chez Monsieur Virlot Marius. Il y va habillé en femme, son banjo sous le bras. Et en guise de travailler l'optique, il va sur les bords de la Marne jouer de la musique, raconter sa vie de femme, exhiber son maudit album et boire. Boire, toujours.
Ils attendaient ça comme une libération et finalement, ça n'est pas une libération. Dès que la loi d'amnistie est promulguée, il reprend ses habits d'homme et à ce moment-là, il reprend son identité masculine de Paul Grappe. Mais ce n'est pas si simple, car le fait, peut-être, c'est encore une hypothèse, le fait d'avoir vécu pendant 10 ans sous les traits d'une femme et d'avoir fait des choses qui lui plaisaient, et donc il ne sait plus très bien qui il est. Est-ce qu'il est Paul Grappe? Est-ce qu'il est Suzanne Langarde? Est-ce qu'il est un homme? Est-ce qu'il est une femme? Est-ce qu'il est les deux? Il ne sait pas très bien. Il est sérieusement déboussolé, et comme il avait commencé à boire déjà depuis un certain temps, il boit de plus en plus. Il devient alcoolique, et dans ces crises d'éthylisme, je pense qu'on doit les appeler comme ça, il lui arrive de se réhabiller en femme, ou du moins d'avoir des accoutrements bizarres, moitié homme, moitié femme, et d'aller se balader dans les rues de son quartier, aller de bistrot en bistrot, et raconter les histoires de, il dit, quand j'étais femme. Et il transporte avec lui quelque chose que malheureusement on n'a pas retrouvé, on n'a retrouvé que des bribes, un album de photos. Donc il s'est fait prendre en photo, on ne sait pas comment, on aurait bien aimé le savoir, car il y avait des photos obscènes, parce qu'on a trouvé un dossier cartonné sur lequel il y avait écrit « photos obscènes », et quand on a ouvert, très alléché, il était vide, donc on ne sait pas quelles étaient ces photos. Donc il est sérieusement perturbé. Comme en plus il est alcoolique, et d'après ce que l'on sait, il en était à plus de 5 litres de vin par jour, donc c'est sérieusement alcoolique. Ce qui est plus grave, c'est qu'il devient de plus en plus violent.
On a mis en vis-à-vis les deux photos de Paul et Suzanne, qui sont pratiquement la même attitude, sauf que dans un cas, il est en homme, dans l'autre en femme. Pardon, je ne la retrouve plus. Les deux photos. Voilà. Paul et Suzanne en 25, une où il est en femme, et d'ailleurs, il est en femme, mais il a dédicace de son homme, Paul Grappe, et en dessous, il y a la date, les 10 années où il est en femme, 1915-1925. Donc on peut imaginer que ça, au moment où il redevient homme, autour de l'album, cette notoriété qui le met un peu dans un état d'excitation, il va à ce moment-là prendre un agent, pensant que finalement les portes de la gloire vont lui être ouvertes. Je crois que l'agent n'a pas eu beaucoup de travail avec lui, mais manifestement il dédicacerait ses photographies de l'époque où il était en femme. Et puis en face, on a donc Paul en homme, avec la cravate, les cheveux longs pour l'époque, on peut le noter. La chevelure est la même dans les deux cas. Hein. Paul et Suzanne ont la même coupe de cheveux, sauf que c'est le reste de l'apparence qui permet de voir s'ils sont un homme ou une femme.
Qu'est-ce qu'il faisait de sa barbe? Surtout qu'on a des photos de lui avant, et il avait la barbe drue, fournie et noire. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il utilisait un procédé d'épilation qui est justement devenu à la mode dans les années 20, avec l'exemple des stars du cinéma muet, et qui était une épilation par électrolyse. Je ne connais pas tout à fait bien le système, mais c'est une épilation électrique qui brûle le bulbe. Donc ça fait assez mal, mais c'est radical et ça dure. Donc il allait, et on a les rendez-vous où on voit, il va, on appellerait maintenant chez l'esthéticienne, pour se faire des séances d'électrolyse.
Monsieur, après avoir lu votre histoire sur le petit Parisien, j'ai constaté la disparition de votre moustache. Voudriez-vous me dire, avec toute la discrétion voulue, comment vous avez pu réussir? Avez-vous fait disparaître définitivement ou en plusieurs fois? Veuillez donc me donner la marche à suivre et l'adresse nécessaire. Je vous prie d'agréer mes sincères salutations. Monsieur Jean Roger, chez Monsieur Polis, Condé les Autries, Parautries.
Louveciennes, Ardennes. Le 12 février 1925.
6 juin, le timbre de réponse.
Monsieur, après avoir bien hésité, je me paie enfin de tout paix pour venir vous demander un petit renseignement, ayant lu votre aventure sur le petit Parisien. J'ai été très frappée que, homme, vous ayez pu faire disparaître votre moustache et que moi, tout étant femme, je suis affligée de ces vilains poils qui sont souvent des sujets de risée à mon égard.
12 février 1925.
Je n'ai jamais pu m'en débarrasser.
Monsieur, voilà près de 8 jours que je voulais vous écrire. Mais toujours sans raison. Tout d'abord, je vous félicite de votre savoir-faire et de votre fermeté de caractère. Peut-être avez-vous connu mon frère, du nom de Thérault de Lucien, qui était au 102e aussi. Je viens vous demander, puisque vous avez pu faire disparaître votre moustache, de me donner quelques renseignements où je pourrais avoir de l'électrolyse. J'ai essayé plusieurs crèmes et je trouve qu'elles repoussent davantage. Espérant, monsieur, que vous me donnerez satisfaction. Veuillez agréer, ainsi que votre dame, mes remerciements.
J'ai donc tout cessé et maintenant j'ai recours au rasoir. Je ne suis cependant qu'une ouvrière, mais je tenterai tout pour me débarrasser de cela. Veuillez bien me dire aussi si cela est coûteux. Attendant avec impatience votre réponse et vous remerciant sincèrement à l'avance, je vous prie d'agréer, monsieur, mes empressées civilités. Madame Enoch, 72 rue de Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Seine-et-Oise.
La vie étrange de Paul Grappe, la belle Suzy. C'est une existence vraiment étrange que mena une partie de sa vie le déserteur Paul Grappe, lequel durant 10 années donna le change au plus perspicace et vécut en demoiselle, distinguée et adulée. C'est en novembre 1914 que Paul Grappe résolut de passer du côté du beau sexe et s'affubla de vêtements féminins. Il fit tomber sa barbe et sa moustache par un procédé électrique, parvint à modifier le ton de sa voix et, après un entraînement de quelques mois, il eut le toupet de se présenter dans une maison de mode du Faubourg Saint-Honoré. Durant 2 années, la jolie Suzy travailla avec ses compagnes sans éveiller les soupçons, fit tout d'abord l'arpette, puis devint cousette et, à diverses reprises, servit de mannequin. Très prudente, la jolie Suzy n'usa que très modérément, dit-on, des avantages que lui procuraient ses relations féminines nombreuses et confiantes. Cependant, il eut une liaison avec un jeune mannequin de 16 ans, liaison qui fit bien jaser dans la maison de mode. Quant aux victimes qui savaient la vérité, elles comprenaient qu'elles n'avaient rien à gagner en provoquant un scandale et, par crainte du ridicule, elles se taisaient. Mais on raconte qu'il y eut des crêpages de chignon assez violents à l'atelier, à propos de la jolie Suzy. Paul Grappe avait le pied fin, la cheville bien cambrée, et sa peau était très blanche, ce qui lui permettait de se décolleter. Un maquillage savant complétait l'illusion. Renvoyée de la maison de mode pour des motifs que la décence nous interdit de publier, Paul Grapp fut embauché dans une fabrique de cadres. Toujours très élégamment vêtu, très coquet, là encore, il fit, rapporte-t-on, des béguins. Et un jeune employé s'éprit de la jolie Suzanne et lui envoya même des vers. Comment se termina l'aventure? On ne le dit pas. Le journal.
Ce serait peut-être curieux, c'est trop compliqué. Et les femmes et moi sommes, on n'est plus au monde comme ça. Et les femmes et moi sommes, ce n'est pas notre faute, n'est-ce pas? Et les femmes et moi sommes, et voilà, 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 et voilà, et voilà, et voilà, voilà, voilà.
Il me tenait par la taille facilement devant le monde. Il m'appelait Lily. Chez nous, c'était poufias, salope, vache, putain, ordure. Les mêmes mots, il les adressait à sa mère, chez elle. Chaque fois qu'il y allait, c'était la dispute. Elle traitait son fils de macro et moi de putain.
En fait, les relations entre les deux et la place de la violence dans leur relation est assez compliquée parce que on a un moment de violence au printemps 1925 à partir du moment où Suzanne redevient Paul, redevient homme. Et au moment où Louise, sa femme, va s'en aller avec Paco, l'amant espagnol, qui lui a été imposé par Paul 6 mois avant. Sauf que Paul, il voulait apparemment organiser plus des parties ou carrés ou faire de l'échangisme. Il n'avait pas prévu que sa femme s'en aille avec son amant.
Il a perdu le contrôle de la situation.
Exactement. On est dans un rapport de pouvoir. Donc tant qu'il contrôle la sexualité de sa femme, ça fonctionne. Ça fonctionne même dans l'image et le fantasme qu'il a d'une sexualité libre, débridée, avec des partenaires qui changent, s'il contrôle. Il y a un moment, il ne contrôle plus, c'est-à-dire qu'elle s'en va avec Paco. Et alors là, il devient fou furieux, il menace d'un revolver sa belle-mère, il menace de se suicider. Et donc là, il y a un moment très dur et d'extrême violence de la part de Paul, pas forcément envers Louise qui est partie, mais envers son entourage et je dirais envers lui-même. Quand elle revient finalement, lui ayant promis qu'il n'allait plus boire, qu'il n'allait plus frapper, qu'il allait être travailleur gentil, sage, etc. Elle est enceinte de plusieurs mois, et la fin de la grossesse se passe là aussi assez mal, finalement. Contrairement à ses promesses, il est à nouveau violent, et surtout il passe son temps à boire, et il a très peu d'attention. Elle travaille alors qu'elle est enceinte, et lui travaille à peine à ce moment-là. La naissance de l'enfant provoque une amélioration pendant un an et demi, où là, on n'a plus, en tout cas, Louise ne raconte plus de violence de la part de son mari. L'enfant grandit en bonne santé, et on a une sorte de concorde familiale qui dure un an et demi, peut-être un peu plus.
Un peu partout, mon mari se faisait passer pour policier. Sa mère le croyait fermement. Il allait la voir, disant qu'il suivait des pistes. Sa mère était fière, elle lui donnait la soupe. C'était parce qu'il n'y avait plus à manger chez nous et qu'il était sans travail, jamais pressé d'en trouver. C'est moi qui lui trouvais par les affiches, lui il n'en voyait jamais. Il se mettait des faux pansements à la main et disait qu'il était blessé à l'assurance. Il n'avait simplement qu'un long poil dans la main. Il hochait la tête et me traitait d'imbécile, de brute. « Certainement, tu ne me viens pas à la cheville, me disait-il. Je suis un raffiné, je veux sortir de cette masse brute qui vont travailler le matin comme des esclaves et rentrent le soir. » La Pentecôte, cette année, mon petit Popol attrape la rougeole. Il est chez ma vieille mère, laquelle le soigne avec un dévouement un peu plus grand. Le docteur lui rend visite et prétend qu'il fait trop chaud. Il fait une ordonnance et s'en va. Mon mari l'a entendu, mais il n'a rien répondu. Mais c'est nous, ma mère et moi, qui l'insultent. Il prétend que les docteurs sont tous des cons. Il voit que le petit a besoin de médicaments et il travaille pas. Il faut restreindre le vin.
Thank you.
Au dispensaire, il fut constaté que l'enfant avait 38,8 de fièvre. Je suis alors partie avec mon enfant pour lui donner les soins nécessaires à la maison. Puis mon mari est rentré. Il était en état complet d'ivresse. En pénétrant dans la pièce, il est tombé à la renverse sur le lit. S'étant réveillé, il s'assit sur le lit et me lança deux gifles avec le dos de la main car je m'étais couchée auprès de lui. J'ai essayé vainement de l'apaiser car il était toujours en état d'ivresse et le petit criait toujours « Moi, la peur de papa !» Enfin, au moment où penché sur l'enfant pour essayer de le protéger contre les mouvements désordonnés de mon mari, celui-ci me porta un violent coup dans le dos en s'écriant « Ça va pas recommencer ces deux vaches-là !» Et comme le petit criait, de plus en plus fort, et comme mon mari devenait de plus en plus agité, j'eus peur et prenant le revolver de mon mari qui était sur la cheminée, j'ai tiré sur lui. Ce pistolet appartenait à mon mari et c'est lui-même qui le tenait constamment à cette place. Tels sont les faits qui se sont passés et les mobiles qui m'ont poussée à tirer sur mon mari.
Donc elle tue son mari le 22 juillet, dans la nuit du 21 au 22 juillet 1928. Elle se rend au commissariat, elle va au dépôt. Très vite, donc, elle est poursuivie pour homicide volontaire. Elle est mise à la prison Saint-Lazare et elle est libérée courant août, fin août. Donc finalement, elle passe à peu près un mois. Et au cours de ce mois, elle a le temps de choisir son avocat, qui sera Maurice Garçon, et qui lui demande de raconter finalement les événements de sa vie qui ont amené ce dénouement tragique. Et donc elle va écrire trois versions, une très courte, une un peu plus longue et une plus développée, sur un cahier. Comment est-ce qu'on sait que ça a été écrit là? Parce qu'il y a le numéro d'écrou qui figure sur le cahier, donc c'est bien à ce moment-là où elle raconte sa vie, elle raconte la rencontre avec Paul, elle raconte tout ce qui leur est arrivé au cours de ces années. Et puis surtout, ce texte a une vocation, c'est d'organiser sa défense et permettre à son avocat de la défendre. Donc c'est évidemment pour elle un document à décharge. Elle va forcir le trait, aussi bien pour décrire son propre dévouement, comment est-ce qu'elle a été une épouse aimante, fidèle et acceptant finalement les écarts de son mari, et comment, à l'inverse, son mari est devenu petit à petit un homme aussi peu recommandable et qui l'a amené à le tuer. Donc on n'est pas dans un document anodin du tout. Ce n'est pas un journal intime écrit au jour le jour, c'est bien un récit de vie a posteriori pour se défendre d'une accusation de meurtre.
Parce qu'on a des doutes sur la spontanéité du geste de Louise qui dit s'être saisi du pistolet dans un accès de peur et avoir tiré, alors que finalement les policiers qui se rendent sur le lieu du meurtre constatent qu'elle a quand même eu le temps de charger le pistolet avant de tirer sur son mari.
Et je dois dire que là elle a été très habile parce que les policiers s'en sont aperçus tout de suite. On le sait par les interrogatoires, la façon dont ils reviennent sur « mais est-ce que le pistolet était armé ?» et « est-ce qu'il dormait ?» « est-ce que vous étiez en train de vous disputer ?» et comment ils ont réinterrogé plusieurs fois les témoins « mais vous n'aviez pas entendu une dispute avant ?» alors qu'ils racontaient toujours que tous les jours il y avait des disputes. Ce soir-là, c'était calme. Et je dois dire que les premières fois, quand on a lu les dépositions, on a cru Louise. Elle était très habile. Et à force de relire et de voir ce que disaient les policiers et de voir comment l'enquête a été menée, je pense qu'ils n'étaient pas dupes, les policiers. Ils ont compris qu'en fait, elle a dû, on dit bien, elle a dû, parce que de toute façon, ça a été jugé, elle a été acquittée, donc on n'en parle plus. Enfin, si on veut se pencher sur la question, elle l'a peut-être tuée dans son sommeil. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de dispute. Elle a dû revenir de l'hôpital absolument excédée, avoir certainement peur pour son enfant qui allait mal. Elle ne savait pas encore qu'il allait mourir, mais elle voyait bien qu'il allait mal. Et peut-être elle ne l'aimait plus. Et ils ont trop fait de choses ensemble.
Mais ce qui est curieux, c'est que Maurice Garçon, donc l'avocat de Louise, lors de son procès, ne se sert pas du tout du passé sexuel trouble de son mari, donc la victime du meurtre, pour défendre sa cliente.
C'est vrai, il l'utilise assez peu. Je crois que c'est le signe de deux choses. D'abord, qu'on est dans une période où la vision moraliste n'est pas aussi forte qu'elle n'a pu l'être auparavant. Et donc, accentuer là-dessus n'était pas forcément une garantie de succès. Et puis, d'autre part, en insistant là-dessus, Il risquait aussi de mettre le doigt sur la sexualité de Louise également, qui finalement s'en va quand même avec un amant.
Peut-être un enfant de l'amant,
parce qu'il y a quand même un petit doute sur la paternité, enfin la filiation du petit Popole. Donc il fallait, je pense, enfin je ne vais pas mettre à la place de Maurice Garçon, mais faire attention à mettre en avant un certain nombre d'arguments qui ne risquaient pas d'aller en défaveur de Louise. Et on le voit bien dans les notes, c'est vrai que c'est un dossier fascinant à étudier, parce qu'on voit les notes, on voit les pistes qu'il envisage à un moment, celles qu'il abandonne, et finalement, et c'est vrai que sur cette question de l'immoralité ou de la désertion, il y a toujours le risque de rappeler que Louise est quand même complice de tout ça. Voilà, je pense que Maurice Garçon l'avait parfaitement saisi bien avant nous, et voulait absolument pas que sa cliente soit présentée comme une cynique meurtrière de son mari.
Les grands procès de l'année. Le ménage de Madame Suzac. Cour d'assises de la Seine, audience du 19 janvier 1929. On était bien curieux de savoir comment elle était faite, cette épouse meurtrière de l'extraordinaire homme Protée. Eh bien, Madame Louise Landy, femme Grappe, est la plus banale des accusées, rien d'extravagant dans sa tenue très classique de veuve en long voile de deuil, au chapeau de crêpe bordé d'un mince liseré blanc. Elle s'exprime avec une parfaite aisance devant ses jurés de la Seine qui vont la juger. On sent qu'aucune inquiétude ne la tenaille. D'abord, on l'a d'ores et déjà mise en liberté provisoire. Et puis, l'acte d'accusation contient une bien singulière oraison funèbre de la victime qu'il déclare peu digne d'intérêt, de mœurs équivoques, déserteur pendant la guerre, paresseux et anarchisant pendant la paix.
Est-ce qu'on connaît le sort qui était réservé aux femmes battues à cette époque-là, puisque Louise se présente comme une femme battue dans ses mémoires?
C'est un peu compliqué de dire quel est le sort réservé aux femmes battues. J'aurais envie de tendance à dire que dans les années 20 et les années 30, c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale, un homme ne peut plus battre sa femme aux yeux de la loi comme aux yeux de la société de manière inconsidérée. Autant une violence ponctuelle, correctrice entre guillemets, peut être accepté, et on ne reprochera pas à un homme d'avoir fichu une paire de claques à sa femme, et on le voit à travers la littérature, à travers le cinéma, ça fait presque partie des épisodes ponctuels mais obligés d'une vie conjugale. Autant si cela dépasse ce cadre-là, si c'est trop fréquent, si on passe d'une claque à des coups plus violents, là il y a une réprobation sociale. On considère que non, c'est voilà quelqu'un justement qui ne sait pas tenir son foyer puisqu'il est obligé d'utiliser la violence. Et là, il va y avoir un changement d'attitude vis-à-vis de ces couples où on va plaindre la femme qui subit la violence de son mari et considérer que cet homme-là n'est pas un bon père, un bon mari. Ça arrange un peu tout le monde, il nous semble, de présenter Paul Grappe comme un homme accumulant tous les défauts et étant finalement une sorte de parfait asocial.
Du mauvais homme, finalement.
Du mauvais homme. Et elle, à l'inverse, bonne mère,
travailleuse,
épouse dévouée à son mari, même dans ses excès, etc. etc. Donc, voilà, ce couple-là, présenté comme ça, fonctionne bien.
Et les jurés, orientés presque, on pourrait dire, par le réquisitoire du procureur et la plaidoirie de l'avocat, ont conclut à l'innocence.
Puis il y a un autre élément qui joue aussi en faveur de Louise, c'est la mort de leur enfant, puisque le petit Paul meurt alors qu'elle est en prison à Saint-Lazare. Elle obtient une autorisation spéciale pour aller le voir. Il est pratiquement dans le coma et elle va ensuite obtenir une deuxième autorisation pour enterrer l'enfant alors qu'elle est toujours détenue à Saint-Lazare. Et donc là, c'est vrai qu'il y a un élément dramatique qui va effectivement beaucoup jouer dans la poursuite de l'enquête et dans le déroulement du procès. Elle le dit, elle l'écrit. Hein. En fait, il y a un retournement de l'accusation. Ce n'est plus elle qui a tué son mari, c'est son mari qui a tué leur enfant, même si l'enfant meurt quelques jours après.
Cher maître,
Je m'empresse de vous donner l'adresse du monsieur qui vous paiera les 3000 francs que vous me demandez pour le procès. Excusez si je n'ai pu agir avant, car je suis été prise à l'improviste. J'ai vu ce monsieur hier et tout est pour le mieux. Sincères salutations et remerciements. Madame Louise Grapp.
Alors, il y a une autre hypothèse qu'on n'a pas pu approfondir, c'est que peut-être elle avait rencontré un autre homme. Ce n'est pas sûr. On n'a aucun élément pour le dire. Mais peut-être.
Elle se marie 6 mois plus tard.
Elle se marie 6 mois plus tard, ce qui nous permet d'étayer l'hypothèse, mais pas plus que ça. Elle l'a peut-être rencontré en sortant de prison.
Merci à Daniel Volman et Fabrice Virgili. Merci également à François Angelier et Christine Barre pour leur expertise et leur aide précieuse. Lecture, Cécile Bacquès, Christophe Brault, Aurélie Marsay, Marie-Vonne Abolivier, Séverine Yattard. Prise de son, Frédéric Potry. Mixage, Pierrick Charles. Nous n'irons plus au bois, Anaïs Quien, Charlotte Roux.
Vous pouvez réécouter cette émission comme toutes les autres pendant 500 jours, la télécharger en podcastant cette émission en allant sur le site franceculture.com. Et puis demain, nous continuerons cette semaine raccourcie sur le travestissement, nous nous intéressant au travestissement dans le monde antique avec Violaine Sébillotte-Couchet et Florence Dupont. Et puis pour nos auditeurs parisiens, rappelons que ce soir à 17h se tient la conférence Marc Bloch à l'École des hautes études en sciences sociales, une conférence importante pour l'École des hautes études en sciences sociales et pour tous les historiens, puisqu'il s'agit généralement d'un grand intellectuel, souvent historien, qui vient raconter l'état de ses recherches. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Frédéric Cooper qui nous parlera d'Empire, Nation et Citoyenneté, la France et l'Afrique, à 17h au grand amphithéâtre de la Sorbonne. Il est professeur à l'Université de New York et donc c'est un moment important pour la communauté des historiens que de se rendre à cet endroit-là. Je ne sais s'il y a encore de places. Donc, des places. Grand amphithéâtre de la Sorbonne, 17h aujourd'hui. Frédéric Cooper sur Empire, Nation et Citoyenneté, la France et l'Afrique.